Alain Michel, le propre des dictatures, c'est qu'on y meurt facilement. Et à cet égard, la Rome de l'Empire ne fait pas exception. On y meurt beaucoup. Il faut dire au départ qu'il y a une circonstance particulière, c'est que les règles de transmission du pouvoir ne sont pas clairement établies. Il s'ensuit que lorsqu'un empereur arrive au pouvoir, certaines personnes, on peut dire, sont marquées de naissance. Et cela se passe même lorsque un ministre, par exemple, veut arriver au pouvoir. C'est ce qui est arrivé sous Tibère avec ses gens, je crois. Ces gens étaient, on peut dire, ministres en gros. Ce n'est pas l'expression technique, mais il avait les pouvoirs, en fait, d'un ministre. Il ambitionnait de succéder à Tibère. Et à partir de là, il a supprimé tous les gens qui, par leur naissance, étaient susceptibles d'être un obstacle à cette arrivée au pouvoir, en particulier les fils d'Agrippine et de Germanicus, je crois, Drusus et Néron. Et il y avait en quelque sorte un couloir tout tracé qui conduisait au dernier rejeton de Germanicus, qui était Caligula. Mais ceci relève un peu de l'exception. Et lorsqu'on lit les historiens de la Rome du 1er siècle, on a l'impression que la mort n'est pas réservée à une minorité, on a l'impression qu'elle est un peu diffuse, qu'elle est quotidienne. Alain Michel, la première question que je voudrais vous poser, c'est de savoir qui est concerné par ce problème dans la Rome du 1er siècle.
Je crois en effet que ce problème se pose d'une façon particulièrement profonde. Nous sommes dans un des moment où les hommes qui écrivaient l'histoire ont pensé à la mort et ont parlé de la mort. Nous sommes dans un des moments où il y a eu une conception tragique de l'histoire. Il suffit de penser à Plutarque, à Sénèque et à Tacite, bien entendu. Qui mourait ? Eh bien, les empereurs. Un empereur qui meurt, c'est d'une certaine manière tout l'ordre de la cité, tout l'ordre cosmique, puisqu'il s'agit de Rome, qui se trouve mise en question. C'était les grands personnages de l'État, en particulier ceux qui apparaissaient comme capables de succéder à l'empereur malgré lui. C'est dans ce cadre dynastique, comme vous l'avez dit, que se présente souvent la tragédie de la mort. Mais s'il est vrai que ce sont donc de très grands, d'immenses personnages qui sont atteints par elle, il ne faut pas croire pour cela que le tout venant des Romains se trouve épargné et que nous sommes dans une civilisation politique où seuls quelques leaders se trouveraient menacés pour peu que les autres sachent se désintéresser des affaires. Ils ne le peuvent pas. Nous sommes dans un monde de rapports sociaux très étroits, de rapports de clientèle. Je crois que la perspective de certains qui ont dit « Néron, par exemple, ne tua que 30 sénateurs » est une perspective fausse, parce que 30 sénateurs, c'était considérable. Chacun d'entre eux avait en fait une influence dans le monde entier. Nous sommes dans un monde des relations humaines, de la finesse, où tout se tient. Et on peut dire que tout citoyen romain, comme Sénèque par exemple, ou comme ce Lucilius à qui il écrit, fait la double expérience de sa solitude et de sa liaison totale au monde. Le grand fait du stoïcisme, c'est cela. Le sage, c'est quelqu'un qui est seul. Mais il est seul parce qu'il est tout le monde.
Donc on a une société où la mort est diffuse, si j'ose dire. Elle est dans l'air. Et d'autre part, elle possède cette caractéristique également d'être une mort surprise parce qu'on ne sait jamais ce que l'empereur peut soupçonner. On ne sait jamais si l'on est visé. Et du jour au lendemain, eh bien, l'empereur envoie un messager pour que l'on s'ouvre les veines, ou même il envoie des soldats. Donc, si, comme vous venez de le dire, on se trouve dans une civilisation où la mort est présente quotidiennement, la question qu'on se pose, c'est de savoir comment les hommes réagissent, parce qu'il y a évidemment dans cette situation plusieurs possibilités. Est-ce que, par exemple, on peut échapper à cette angoisse quotidienne en se retirant de la vie politique, en s'isolant dans ce qu'on appelle dans notre littérature classique la tour d'ivoire.
Le problème a été posé par les hommes de ce temps. Nous avons de Sénèque un traité De Otio sur le repos ou sur l'abstention politique, puisque tel est le sens qu'on peut donner au mot otium. C'était d'ailleurs une question sur laquelle avaient réfléchi les philosophes depuis les lendemains du règne d'Alexandre, depuis qu'à l'époque hellénistique, des pouvoirs personnels de caractère militaire et tyrannique s'étaient souvent établis. La réponse était difficile. Elle était difficile déjà à l'époque des Grecs, qui avaient à un très haut degré la notion du citoyen et la notion de l'engagement politique. Elle était très difficile pour des Romains, qui avaient hérité cela des Grecs et y avaient joint leur patriotisme. Les écoles philosophiques débattaient là-dessus, et les stoïciens en particulier affirmaient que le sage doit s'engager autant qu'il est possible. Il n'a le droit de se détacher de l'action que dans la mesure où cette action serait totalement impossible. Et la dernière forme de l'action qu'il doit savoir accepter, c'est précisément le suicide, c'est précisément la mort volontaire qui est une manière de préserver sa liberté. Encore une fois, l'exigence profonde de l'individu s'accorde ici avec l'exigence de l'action. Il ne faut pas se représenter ce suicide que Tacite nous décrit souvent comme un acte d'abstention et de détachement politique, mais plutôt comme l'action suprême, celle qui concilie la liberté avec la volonté du refus.
Quels sont les exemples qui historiquement illustrent ce genre d'attitude ?
Les deux exemples principaux sont, je crois, de l'époque de Néron. À l'époque impériale, du moins, car déjà la question s'était posée sous la République. Et on se rappelle bien sûr la mort de Caton, on se rappelle la mort de Brutus. Il tint l'épée, je me jetai sur elle, comme dit Shakespeare. Eh bien, ce suicide stoïcien a été pratiqué par Sénèque et par Thrasea Apetus, c'est-à-dire par deux des plus illustres sénateurs de l'époque néronienne.
Alors, quel est le contexte de ce suicide ? Enfin, politiquement d'abord, comment les choses se sont-elles passées ?
Elles se sont passées dans le cadre des institutions romaines. Le problème qui se pose est de savoir si un sénateur a le droit de s'abstenir. Qu'est-ce qu'un sénateur dans le système impérial ? C'est quelqu'un qui dispose, de par sa richesse et de par ses clientèles et de par son nom, d'une très grande autorité personnelle. Le gouvernement effectif de l'Empire, ce qu'on appellerait l'exécutif, si vous voulez, aujourd'hui, appartient à l'empereur et aux organes de gouvernement, d'ailleurs encore assez confus, qui l'entourent. Mais il a besoin, socialement, de disposer de l'appui du peuple et de disposer de l'appui de ces hommes qui ont l'autorité, que sont les sénateurs. La seule chose, donc, qu'un sénateur ne puisse pas faire, c'est refuser d'accompagner l'empereur, refuser de paraître dans le Sénat pour entériner ses décisions. L'abstention est l'acte d'opposition suprême. Et c'est pour cela que lorsque Sénèque, par exemple, a annoncé à Néron, au cours d'une conversation que Tacite nous raconte, qu'il décidait de retourner à la pauvreté, qu'il était trop vieux, qu'il était fatigué, Néron lui a répondu qu'il considérait cela comme une désertion. Et à partir de ce moment-là, la disgrâce était venue.
Il n'y a donc pas eu, dans le cas du suicide de Sénèque, puisque Néron a forcé Sénèque à s'ouvrir les veines, il n'y a pas eu là une illustration de cette cruauté qu'on a si souvent reprochée à Néron. C'est dans le fond une condamnation politique.
Je pense effectivement que c'est au plan du débat politique qu'il faut lire tout cela, et c'est d'ailleurs dans cette perspective que nous le présente Tacite.
Et alors, dans le cas de Thrasea, qui est un personnage assez connu parce que Monterland, dans le 13e César, en a parlé, je crois, assez longuement. Dans le cas de Thrasea, on a affaire au même problème de l'abstention.
Exactement. Nous voyons d'ailleurs des délateurs intervenir à propos de Thrasea auprès de Néron en faisant un de ces discours à demi fictifs que Tacite aime à utiliser pour exprimer son idéologie, en fait. Et l'accusation qu'il présente contre Thrasea, c'est précisément celle-ci. Il refuse de soutenir le prince et par là même il fait de l'opposition. Cela dit, bien entendu, le problème prend une dimension pour Thrasea comme pour Sénèque beaucoup plus grande, parce qu'il se trouve lié à cette question de l'acceptation de la mort et du droit à la mort qui met en jeu non seulement la politique mais la sagesse. Nous disions tout à l'heure que le problème de l'individu est en même temps le problème politique est en même temps celui de l'individu. La sagesse se confond avec la politique pour les hommes de ce temps, ce qui ne signifie pas qu'ils récusent l'une ou l'autre, mais que dans l'une et dans l'autre, ils voient certaines contradictions. Le problème qui se posait, C'était, du point de vue des philosophes, le problème du droit au suicide. C'est une question qu'on se pose d'ailleurs de savoir si Tacite est ou non favorable à ces hommes qui, comme il dit, mouraient avec tant de douceur, ou peut-être mouraient avec tant de mollesse. Et il ajoute qu'on ne peut pas voir sans une sorte de satiétas, sans une sorte de satiété, toutes ces morts lâches qui ne sont pas tout à fait héroïques à ses yeux. Donc son attitude est ambiguë. Pourquoi ? Probablement parce qu'il suit la tradition platonicienne qui disait qu'on n'avait pas le droit d'abandonner son poste et qui s'opposait en cela au stoïcisme.
Lorsque des gens comme Sénèque ou Thrasea meurent à nos yeux, à nous modernes, courageusement, Tacite à l'égard de cette mort, une attitude très ambiguë.
Il a une attitude ambiguë et hésitante, qui lui est d'ailleurs peut-être dictée par le fait que de nouveaux suicides du même type, suicides de philosophes, surviennent en 117 au moment de l'avènement d'Adrien, et que Tacite doit hésiter entre une attitude favorable et une attitude défavorable. Il l'admire certainement dans cette attitude de l'élan de liberté dont elle témoigne, la rigueur philosophique qu'elle traduit. Cette attitude le tente aussi dans son désespoir, car il y a chez lui toute une part de désespoir devant l'action, de désespoir devant les hommes. Il doute des hommes.
Vous avez parlé de l'idéologie de Tacite, et c'est un auteur que l'on a critiqué de pas mal de façons, et on a dit justement que son idéologie était celle d'une aristocratie, que très souvent il avait tiré ses renseignements de l'aristocratie, enfin des gens qui faisaient partie des milieux sénatoriaux, et que cela a pesé considérablement sur l'interprétation de l'histoire qu'il a donnée de cette époque.
Je crois effectivement que nous avons affaire à une morale aristocratique, au sens philosophique du terme. Quant à dire que Tacite représente le milieu sénatorial, cela est vrai, mais les choses sont complexes parce qu'il y avait divers aspects dans ce milieu sénatorial. Tacite n'est pas le représentant d'une vieille famille ou d'une famille de nantis. Comme on sait, il est un représentant des jeunes générations des provinces, probablement de la Gaule narbonnaise. On pense actuellement même que sa famille devait être originaire de la région de Vaison-la-Romaine. Il représente beaucoup plus les classes montantes, les classes actives de la cité romaine. Et c'est surtout probablement par sa culture, par sa formation intellectuelle, un peu comme un intellectuel, qu'il était arrivé progressivement aux hautes charges. Une aristocratie, oui, mais une aristocratie qui se veut morale et intellectuelle.
Et quelle a été l'attitude des empereurs à l'égard de l'œuvre de Tacite? Parce que c'est un homme quand même qui, à travers ses suicides justement, qui témoigne d'une foule de réticence à l'égard du régime, ou du moins à l'égard de l'empereur qui gouverne. Et il vivait lui-même sous ce régime, où il n'était pas toujours bon de dire ce qu'on pense. Comment les empereurs ont-ils apprécié cette œuvre?
On ne le sait pas. Ce qu'on sait, c'est que les Flaviens, après avoir poussé Tacite jusqu'auprès des plus hautes charges, l'ont abandonné et peut-être menacé à l'époque de Domitien. Ensuite, il a profité de la réaction qui s'est faite avec Trajan, et il a manifestement été soutenu par cet empereur avec d'assez longues éclipses toutefois. À l'époque de Trajan, il semblait représenter le courant rigoriste. Et quant à ce qui se passe sous Adrien, c'est le silence. Nous ne savons pas comment Tacite est mort.
Alain Michel, je vous remercie de nous avoir parlé de ceux qui meurent bien. Je voudrais maintenant lire un texte qui nous raconte la fin de quelqu'un qui meurt mal.
Messaline avait installé sa mère Lépida dans la maison de Valerius Asiaticus, confisquée à la mort de celui-ci et devenue propriété impériale. C'était auprès d'elle qu'elle s'était réfugiée. Elle avait passé son après-midi dans le jardin, étendue sur l'herbe, attendant la nouvelle des événements. Lépida essayait de lui rappeler que, selon la vieille sagesse, léguée comme un héritage dans les familles romaines, il fallait regarder la mort en face si elle se présentait. Mais Messaline aspirait la fraîcheur automnale qui venait des jardins de Lucullus, et elle tressaillait, n'ayant jamais senti autant la douceur de vivre. Elle ne désespérait pas encore. Elle avait bien cru entendre du bruit du côté de la maison. Elle se souleva et aperçut un homme qui courait de son côté. C'était Évodus. Quand elle le reconnut, elle comprit son destin. Évodus avait toujours haï sa beauté, parce qu'il était malpropre et laid et qu'il n'avait pu prétendre la posséder. Il servait de scribe à Claude et s'était rendu indispensable par son érudition et sa facilité à écrire vite. Il était lettré et d'âme basse, ce qui va souvent ensemble. La haine le faisait ricaner et l'empêchait de parler. Il arriva tout près de Messaline, et comme sa stole avait glissé et découvrait son sein, d'un revers de main, de toute sa force, il frappa sur ce sein dont la beauté l'avait outragé si longtemps. Messaline ne put retenir un cri de douleur et défaillit. Évodus la prit par les cheveux, la secoua en lui criant « Chienne, méretrice de Subur !» Et, tentant de déchirer sa tunique de haut en bas, il lui disait « Montre-nous ton corps avant de mourir !» Mais le tribun suivi des soldats venait d'arriver. Il écarta avec violence Évodus, lui faisant observer que la justice de César doit être plus mesurée et plus silencieuse. Comme Lépida avait tendu à sa fille un poignard qu'elle avait sous ses vêtements, il se tint à quelque distance et il détourna les yeux pour ne pas la gêner à cette seconde suprême. Il avait fait signe aux soldats d'entraîner plus loin Évodus. Mais il faut un grand courage pour se frapper soi-même avec une arme aiguë. Quand on a cherché le plaisir toute sa vie, on n'est pas préparé à se donner la douleur. Messaline tenta à plusieurs reprises de se porter un coup mortel. Elle ne fit que s'égratigner légèrement. La vue de son sang l'effraya et, laissant tomber l'arme, à moitié écroulée sur le sol, elle cacha sa tête dans ses mains. Alors, le tribun plein de pitié s'avança à pas de loup derrière elle, tira son épée, prit son élan et lui donna un grand coup sous l'aisselle qui la traversa de part en part et la tua net. Puis, s'étant assuré de la mort, il s'éloigna avec les soldats.